Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand évoque cette semaine des hommes et des femmes de pouvoir dans les meilleurs moments au cœur de l'histoire. Et aujourd'hui, il revient sur le parcours et sur la personnalité d'un des présidents qui a le plus marqué l'histoire américaine, Franklin Roosevelt. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Franklin Delano Roosevelt, FDR, vous savez comme disent les initiés, a passé 12 années à la Maison Blanche, un record imbattable, puisque désormais le 22e amendement limite l'exercice de la fonction présidentielle à 2 mandats. Roosevelt en a fait 3, il entamait le 4e quand la mort l'a rattrapé. Il aura été le président du New Deal, de la riposte à Pearl Harbor et des accords de Yalta, évidemment. Autant dire, l'homme des temps difficiles. Et s'il ne figure pas parmi les présidents préférés du peuple américain, il n'en vient pas. Le dernier sondage le plaçait en 7e position, pour tout vous dire. Il n'en vient pas moins au tout premier rang de ces hommes d'État.
Et vous souhaitiez nous parler aussi de l'épouse du président Roosevelt.
Eleanor, dont Roosevelt n'était pas seulement le nom d'épouse, mais le nom de jeune fille, puisqu'elle était née Roosevelt, nièce du président Theodore Roosevelt et lointaine cousine donc de son mari Franklin, celui qui nous occupe aujourd'hui. Elle a joué, vous allez voir, un grand rôle auprès de lui, un rôle assez controversé du reste.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Le Sérail, détenteur du record de durée à la Maison Blanche et mort en fonction, Franklin Roosevelt est peut-être le plus emblématique des présidents américains. Je vous ai dit qu'il était né dans le Sérail. Il est précisément né dans le quartier d'Hyde Park à New York en 1882. Autant dire que sa famille faisait partie des WASP, vous savez, les White Anglo-Saxon Protestants, c'est un peu l'aristocratie américaine. Du côté maternel, sa mère, Sarah Delano, elle a 27 ans au moment de sa naissance, son père en a 54. Il y a une grosse différence. Vous voyez, Sarah Delano appartient à une des plus grandes familles de New York. Et du côté paternel, eh bien, James Roosevelt est un gentleman farmer. C'est l'héritier d'une famille de banquiers. Il descend du fameux Roosevelt hollandais qui, au milieu du 17e siècle, vers 1640, avait débarqué parmi les tout premiers à la Nouvelle-Amsterdam, qui ne s'appelait pas encore New York. Donc il y a là une sorte d'hérédité aristocratique, en quelque sorte. Il y a 2 branches chez les Roosevelt, issues de ce Roosevelt hollandais, de ce premier immigrant. 2 branches, celle des ascendants de Franklin, qui ont été marchands puis banquiers, qui possèdent des terres tout le long de l'Hudson, qui ont investi beaucoup dans le charbon, dans les chemins de fer. Et puis une autre branche qui a commencé dans l'industrie pour finir dans la banque. C'est cette branche-là qui a donné le président Theodore Roosevelt, qui donc a été président des États-Unis de 1902 à 1908. C'est donc un lointain cousin de notre Franklin Roosevelt. Et c'est lui dont la nièce, Eleanor, donc, va épouser en 1905 Franklin. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est le président Theodore Roosevelt qui a conduit Eleanor Roosevelt à l'hôtel, évidemment, pour son mariage avec Franklin. Elle avait 2 ans de moins que son mari. Donc, vous l'avez compris, une très bonne famille. Le jeune Franklin a des précepteurs français, allemand. Il fait Groton, qui est la public school à l'anglaise la plus cotée de l'époque, l'université Harvard, l'université Columbia, dont il sort assez tard. À 28 ans, en 1910, il entre comme avocat au barreau de New York. Vous voyez un petit peu le style de vie dans la famille. Ce sont des parties de campagne, tennis, pique-nique, grandes soirées pendant toute la saison new-yorkaise. Il se montre très à l'aise, Franklin, ce qui n'est pas le cas de sa jeune épouse Eleanor, qui dans un premier temps se montre plutôt timide. Ils effectuent ensemble des voyages en Europe. Lui a d'ailleurs déjà effectué un premier tour de l'Europe avec sa mère. Il va d'ailleurs copier, si l'on peut dire, les codes, les goûts de l'aristocratie britannique qu'il connaît très bien. Tout ça en plus détendu sans doute et en plus pragmatique. Et puis, il y a ses réceptions continuelles à la Maison Blanche. Je vous l'ai expliqué, il est bien placé, Franklin Roosevelt, ce qui fait que, très jeune, il est parfaitement familiarisé avec les sphères du pouvoir. Alors, au-delà de ses origines patriciennes, quel homme était-il? Quel mari? Quel père? Quel malade aussi? Car nous allons voir que la maladie a joué un rôle essentiel dans sa vie. Et puis quel président, bien sûr. Ce sont un certain nombre des questions que je m'apprête à poser à Nicole Bacharan.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avant votre récit, Franck, sur Europe 1, nous vous retrouvons avec Nicole Bacharan, qui est historienne spécialiste des États-Unis, consultante d'Europe 1, bien connue des auditeurs, et auteur notamment du guide des élections américaines avec Dominique Simonet. Ça vient de reparaître chez Tempus.
Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour.
Intéressons-nous à ce président emblématique, ce FDR, ce Franklin Roosevelt, qui donc a régné, j'allais dire, de 1932. Il prend ses fonctions au tout début de l'année 32 jusqu'à sa mort, donc après sa réélection de 1944 en fait. Il a donc été réélu trois fois, c'est un cas unique dans l'histoire des États-Unis.
Oui, le seul.
Alors avant de parler du président, parlons un peu de l'homme. Je disais qu'il est tout sauf un self-made man, hein. Il est né dans l'aristocratie américaine, on peut le dire. Il y a une personne dont je n'ai quasiment pas parlé, c'est sa mère qui joue quand même un rôle important.
Oui, sa mère Sarah, hein, dont vous mentionniez qu'elle était beaucoup plus jeune que son mari, et effectivement elle se retrouve jeune très tôt. Elle a un seul enfant, Franklin, et c'est la passion de sa vie. Elle forme un couple avec ce jeune homme. Vous parliez de ses voyages en Europe.
C'est une veuve, en l'occurrence, veuve possessive. On va dire.
Veuve très possessive. Elle désapprouve totalement l'idylle entre Franklin et Léonore. Elle essaye de retarder les fiançailles au maximum, le mariage. Finalement, ce mariage a lieu. Les deux jeunes mariés sont en effet très jeunes. Je crois à peine 20 ans pour elle, 22 ans pour lui. Ils partent faire le traditionnel voyage en Europe. Donc.
Et à Venise, on a la célèbre photo que Franklin a pris de son épouse à Venise.
Des jeunes gens de la bonne société. Et quand ils reviennent, ils sont accueillis par Madame Roosevelt, mère, qui leur dit « Mes enfants, ne vous faites aucun souci, j'ai tout organisé. » Et en leur absence, elle a fait construire, non pas une, mais deux maisons. Deux maisons identiques, accolées, avec des portes qui communiquent à chaque étage, l'une pour le jeune couple et l'autre pour belle-maman. Et elle prend tout en main. Les nurses, les cuisinières, les domestiques, les réceptions, etc. Et Léonore, dans ses premières 10 années, disons, de jeune épouse, est totalement soumise. Elle se sent maladroite, pas très habile pour mener un foyer.
On va parler tout à l'heure d'Éléonore, parce que je voudrais que toute la fin de cette émission lui soit consacrée. Mais elle n'était pas physiquement très avantagée, on va dire.
On a beaucoup dit qu'elle était laide très tôt. Enfin, or, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, aurait été considérée laide. Parce qu'elle
pas un canon de beauté.
Elle était très grande, elle était très mince, à une époque où on met les femmes un peu plus en chair. Mais elle avait de très beaux yeux, de très beaux cheveux. Elle n'avait pas un très joli profil, voilà, des grandes dents. Toutes choses qui se corrigent aujourd'hui, comme vous savez très bien, mais pas à l'époque. Donc elle était un peu complexée, oui.
Il va la tromper quand même, Franck.
Il va la tromper, elle ne s'en remettra pas. Et ça va rester un couple d'amis. Peut-être même d'amour, on ne sait pas ce que les gens cachent au fond d'eux-mêmes, mais elle ne surmontera jamais cette première trahison qu'elle découvre alors qu'ils ont eu 6 enfants, dont un fils qui n'a pas survécu. Elle soigne son mari qui revient d'Europe, on est en 1918, il a fait une tournée en Europe pour voir les troupes américaines. Il est malade, il a pris froid, elle le soigne, elle range la chambre et elle découvre des lettres échangées avec sa secrétaire à elle, en plus, et des lettres qui ne laissent aucun doute.
Alors ça, c'est une petite maladie. 2 ans et demi plus tard, il va y avoir une beaucoup plus grande maladie, puisqu'il ne faut pas oublier que le président Roosevelt est d'abord un grand malade.
C'est un grand malade. Il est en effet frappé par la polio et il sera paralysé du bas du corps, paralysé des jambes, définitivement, malgré des efforts colossaux, à la fois pour faire des exercices et également pour se tenir au courant de tout ce que la science pourrait éventuellement découvrir.
La polio est le fléau de l'époque, il ne faut pas l'oublier. Notamment aux États-Unis, mais pas seulement, bien sûr.
Et ce qui est frappant, c'est qu'à l'époque, donc les années 1920, les familles ont honte. Elles cachent ces malades. Et Madame Roosevelt, mère, se dit, je vais m'installer avec mon fils à la campagne, plus personne ne le verra, plus personne n'entendra parler de lui. Et là, Éléonore se révolte.
Là, c'est le bras de fer entre la femme et la mère, en
absolument.
Fait, hein.
Éléonore se révolte et elle ne veut pas que son mari soit enterré vivant. Et lui-même va élaborer, peut-être voulez-vous qu'on en parle un peu plus tard, mais il va donner l'illusion qu'il peut marcher. Moi, je suis totalement fascinée par ça. C'est-à-dire que ses jambes ne répondent absolument pas. Elles sont tenues par des cercles de fer. Et il développe une pratique où d'un côté, il s'appuie de tout son poids sur une canne, de l'autre côté de tout son poids au bras d'un de ses fils, ce sont devenus de grands garçons hyper costauds justement pour pouvoir le soutenir, et il se projette en avant en fait en allant d'un bras sur l'autre et on a l'impression
qu'il marche.
Ouais, et quand il fait des discours à un pupitre, il les fait debout sur des jambes qui ne tiennent pas, appuyées comme un lutteur vraiment sur le poids de ses bras.
On aurait pu penser qu'un tel handicap l'empêcherait de mener une carrière politique. Au contraire, il va, comme c'est la mode aux États-Unis, il va transformer ce handicap en un véritable atout.
Strike Up the Band sur Europe 1 du George Gershwin et une interprétation de Sidney Bechet.
Vous imaginez ça ? La perfection sur Terre. Alors nous avons laissé Franklin Roosevelt au tout début d'une carrière politique qui va être tout à fait extraordinaire. Une carrière qui se mène, on peut dire, de pair avec la lutte contre la maladie. On a l'impression qu'il surmonte tous les obstacles, ce Roosevelt. Nicole Bacharan.
Oui, et au fond, je pense que c'est une partie de son succès. Puisque quand il prend les rênes à la Maison Blanche, c'est au moment de la pire crise que les États-Unis aient jamais connue. La crise a éclaté en 1929. Roosevelt est...
Le pays est ravagé par la crise.
Élu en 32. Aujourd'hui, on sait ce que c'est que le chômage de masse. À cette époque-là, vous avez un tiers des Américains en âge de travailler qui sont au chômage. Vous n'avez aucune aide sociale, aucune indemnité, pas de retraite, rien. Que les associations, les églises, donc un pays réellement ravagé par la crise. Et cet homme, Roosevelt, dont on sait qu'il est malade, même s'il le montre le moins possible, on le sait, et qui affiche une foi, une confiance, un optimisme, une énergie incroyable, les gens en font s'identifier à lui.
C'est ça, il est devenu le symbole de la victoire sur l'adversité.
Hein, absolument, absolument.
Alors, très vite, il va rénover la conception qu'on a du pouvoir à la Maison-Blanche. Et d'abord, c'est un très grand communicant, comme on dirait nous aujourd'hui.
Oui, c'est peut-être le premier, au fond, des présidents américains qui réellement entrent dans l'ère de la communication moderne. Et notamment, il initie ces fameuses conversations au coin du feu, qui sont des interventions à la radio, qui sont hebdomadaires, que tous les présidents ont fait depuis. Hein. Barack Obama continue cette tradition et qui se déroule sur un mode intime, au fond, comme vous savez ce que c'est que la radio, Franck. Il s'adresse au fond à une personne ou à une famille. Avec
il a compris à quoi servait la radio.
Totalement,
vraiment.
Avec beaucoup de proximité, beaucoup d'intimité, disant en gros, ben moi je suis au coin du feu chez moi et vous devez être à la table de la cuisine et voilà ce qui se passe dans le pays et voilà pourquoi vous pouvez me faire confiance et pourquoi les choses vont aller mieux. C'est un très grand communicant.
Il sait s'entourer, il y a autour de lui le célèbre Brain Trust, hein, c'est-à-dire le groupe des cerveaux.
Tout à fait, les, ce qu'on a appelé plus tard les meilleurs et les plus brillants. Il a essayé de rassembler à la Maison-Blanche vraiment les meilleurs de son temps. Et il est arrivé avec un programme révolutionnaire. Il n'a pas attendu de mettre en place une commission ou autre. Il arrive à la Maison-Blanche, il prend ses fonctions et en 100 jours, il révolutionne l'économie du pays. Oh, il ne sort pas de la crise. Loin de là.
Il y a un interventionnisme de l'État qui est totalement contraire à la tradition américaine et surtout totalement. Très contraire aux deux administrations précédentes qui étaient des administrations républicaines strictement non interventionnistes.
Et qui pensaient qu'il fallait laisser la crise suivre son cours, aller au bout et que le marché résoudrait tout le problème. Ça ressemble un peu au débat que l'on a dans l'élection de cette année. Roosevelt change le fonctionnement de l'économie américaine. Il lance des programmes de grands travaux, donc où c'est l'État qui investit, qui finance. Il crée le système des retraites et il intervient dans la production de l'électricité, des productions agricoles, la conservation des grands parcs naturels, la construction des routes. C'est assez impressionnant. C'est même, oui, vous le disiez, je crois que vous aviez le terme tout à fait juste, c'est révolutionnaire.
Oui, il y a vraiment. Et d'ailleurs, il y a autour de lui, dans cette équipe, des personnes qui sont suspectées d'être révolutionnaires au sens propre et d'être notamment pro-soviétiques. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a un basculement considérable dans cette longue présidence entre les années de paix, où le président certes mène une lutte économique, mais peut encore se permettre de faire de la représentation, de la communication. Malgré sa maladie, il se déplace énormément. Et puis la période de guerre, où l'on a l'impression d'un chef militaire qui ne bouge plus de la Maison-Blanche.
Et d'ailleurs, il y a une raison aussi pratique, c'est qu'il y a le couvre-feu. On ne sort plus. Washington est entièrement noire pour ne pas tenter les avions qui éventuellement auraient voulu venir bombarder. On demande au président d'aller dans une sorte de bunker à Fort Knox, là où on garde les lingots d'or. Il dit jamais de la vie, à moins qu'on me laisse jouer au poker avec les lingots d'or. Donc il n'ira pas dans le bunker. C'est vrai qu'il tente malgré tout de maintenir un mode de vie à la Maison-Blanche qui garde de l'intimité, de la familiarité. D'abord, il appelle tout son personnel du plus haut au plus modeste. Il les appelle tous par leur prénom. Et tous les jours, il y a une heure de cocktail en fin de journée pour se détendre. On projette un film tous les jours à la Maison-Blanche.
Dans la galerie, d'Eleanor.
Il sait que pour mener cette double lutte à la fois sur le front intérieur et la guerre, il doit avoir des plages de respiration où il peut se détendre.
Et en même temps, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un personnage complexe. Il est retors, il adore diviser ses collaborateurs pour mieux régner, en quelque sorte. On le soupçonne même d'être assez pervers dans sa pratique du pouvoir. Il est aussi extrêmement pragmatique. Ce qui veut dire que sur un plan social, ou comme on dirait nous aujourd'hui, sociétal, la société américaine n'évoluera pas beaucoup sous sa présidence.
Vous avez totalement raison, il y a même un cynisme. Au fond,
chez
Roosevelt, hein, sur le plan effectivement sociétal, il signera la loi qui aboutira à l'internement des Américains d'origine japonaise. Il refusera d'élargir le nombre des visas pour accueillir des réfugiés juifs. Il ne fera rien contre la ségrégation raciale.
Oui, donc de ce point de vue, on a quand même affaire à un homme qui est d'abord un homme politique, un homme d'État, un homme politique. On a bien compris qu'il s'agit d'une personnalité infiniment complexe. Nous y revenons. Dans un instant, je vais vous raconter comment on vivait à la Maison-Blanche à l'époque du président Roosevelt.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck sur Europe 1 qui est une plongée au cœur de la Maison-Blanche à l'époque de Franklin Roosevelt.
L'un des collaborateurs principaux de FDR, Robert Sherwood, qui a rédigé une grande partie de ses discours historiques, en s'appuyant aussi d'ailleurs sur les papiers personnels de l'éminence grise du président Harry Hopkins, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Ce Sherwood a évoqué de manière très vivante la vie quotidienne des Roosevelt à la Maison-Blanche pendant les trois mandats effectifs de Franklin. La journée du président invariablement commençait à 8h, sonnante, par un petit déjeuner qu'il prenait au lit. Le président mettait un vieux chandail bleu par-dessus sa veste de pyjama ou une petite cape bleue qui était ornée de ses initiales, d'ailleurs qui était toujours brodée FDR en rouge, il avait ça sur tous ses vêtements. Pourquoi est-ce qu'il mettait une cape plutôt qu'un peignoir par exemple, mais de même qu'il ne mettait portait quasiment pas de par-dessus, mais toujours cette espèce de pèlerine, c'est parce qu'il était, on l'a bien compris, assez handicapé et que pour lui, ça aurait été beaucoup plus difficile d'enfiler un vêtement. Alors, le président, pendant ce petit déjeuner, lit la presse. On est aux États-Unis, il ne faut pas l'oublier, à une époque où la presse est vraiment le quatrième pouvoir. Il lit toutes les dépêches et puis il reçoit un certain nombre de ses collaborateurs, toujours au lit. Vous voyez, ça, voilà une chose qu'on n'imagine pas le président de la République française.
C'est particulier.
Recevoir ses collaborateurs au lit, ce n'est pas tellement bon. Mais là-bas, c'est comme ça. Enfin, c'était en tout cas. Le général Watson, notamment pas, comme on l'appelait, qui était chef de la maison militaire, mais il n'était pas seulement chef de la maison militaire. En fait, c'était un proche collaborateur du président et c'est lui qui avait la haute main sur l'agenda et sur les rendez-vous. On sait, alors, tous les gens très occupés savent à quel point c'est fondamental, cette fonction-là. Et il fallait évidemment s'entendre assez bien avec le général si on voulait avoir une chance d'entrevoir le président dans la journée. Alors, le général entrait, il réglait les différentes obligations du président pour la journée et puis on voyait défiler les membres du Brain Trust. On se retrouvait pour les audiences du matin, tout de même, dans le bureau ovale. Alors, comme l'a dit Nicole Bacharan tout à l'heure, c'est le président Roosevelt qui a transformé l'ancien cabinet ovale qui servait essentiellement à des cocktails et à des réceptions en bureau. Il en a fait le cœur de l'exécutif d'un pouvoir qui est, n'est-ce pas, présidentiel. Il en a donc fait, disons-le, le cœur battant des États-Unis eux-mêmes, il a été le premier à utiliser ce bureau devenu depuis tellement emblématique. Et puis après, eh bien, le président sortait bien entendu. Alors on parle là des périodes de paix, parce qu'encore une fois, en temps de guerre, les déplacements présidentiels sont réduits au plus strict minimum. Mais alors jusqu'en 1939 et même, disons-le, jusqu'à l'entrée en guerre des États-Unis, les inaugurations succèdent aux obligations diverses. C'est le président des États-Unis. Or, il est malade, ne l'oublions pas. Il circule porté par ses gardes du corps en chaise roulante et il ne le montre pas. Il y a une sorte de tabou sur la question. Après s'être longtemps et pendant ses campagnes présidentielles servi de son handicap comme d'une sorte d'emblème, le président, devenu l'incarnation de la nation américaine, le président ne veut pas être montré en chaise roulante. Alors, ce qu'il fait, c'est que très souvent, il arrive très en avance dans les manifestations officielles et donc il est installé au moment où les gens entrent. Il est déjà prêt. Ou bien alors, comme nous le disait Nicole Bacharan, il y a un système de soutien, d'appui. Le président donne l'illusion qu'il marche, alors qu'en fait, il est plus porté qu'il ne marche. Ses jambes sont particulièrement fragiles. Les journalistes savent qu'ils ne doivent pas du tout le montrer en chaise, donc ça, la question est réglée. En revanche, il y a des photographes amateurs, vous savez. Eh bien, pour contrôler ces photographes amateurs, il y a une équipe spéciale d'agents, d'agents fédéraux, qui sont chargés de récupérer les pellicules sur lesquelles figureraient des photos du président en chaise. Vous voyez quand même que tout ça est extrêmement surveillé. Sherwood raconte comment, par ailleurs, on se plaçait dans la fameuse galerie qui servait également de salle de projection pour les soirées cinéma. Dans cette galerie, pour voir passer le président, il y a là une sorte de résurgence de l'ancienne pratique européenne. Des placets, vous savez, les gens distribuant au chef de l'État un certain nombre de demandes, de complaintes, si je puis dire, de requêtes, tout simplement. On lui donne aussi des cadeaux, etc. Et comme le président, évidemment, ne peut pas les garder, il encombre les bras des policiers qui l'accompagne. On a comme ça quelques photos assez amusantes des policiers chargés de surveiller le président des États-Unis et qui ont littéralement les bras chargés de tout ce qu'on lui a donné sur son passage. Alors, le moment important du travail à la Maison-Blanche, c'est le soir, à partir de 18h. C'est au moment du cocktail, car il faut savoir que le président faisait lui-même les cocktails essentiellement pour les autres, car lui ne buvait quasiment pas d'alcool. Il fabriquait notamment son fameux Old Fashioned, qui était le cocktail du président, qui est un cocktail au bourbon. Et pendant ce moment, qui a l'air d'être un moment de détente, en vérité, on discutait des prochains discours. Et c'est là, évidemment, que Sherwood et les siens entrent en jeu. Alors, l'un des discours les plus célèbres du président Roosevelt, c'est évidemment celui du 8 décembre 1941. Les Japonais viennent de bombarder Pearl Harbor et Roosevelt déclare tout simplement la guerre au Japon. Je vous propose d'entendre la voix de Franklin Roosevelt au moment de ce grand discours.
Yesterday, December 7, 1941.
Hier, 7 décembre 1941, les États-Unis d'Amérique ont été l'objet d'une attaque soudaine et préméditée de la part des forces aériennes et navales de l'Empire du Japon. Les États-Unis étaient en paix avec cette nation. On se souviendra que la distance entre Hawaï et le Japon montre clairement que cette attaque a été préméditée il y a bien des jours, ou même bien des semaines. En ma qualité de commandant en chef de l'armée et de la marine, je demande au Congrès de déclarer l'état de guerre entre les États-Unis et l'Empire du Japon.
Un extrait sur Europe 1 du concerto pour piano de George Gershwin. À tout de suite, et je vous rappelle que Franck Ferrand s'intéresse aujourd'hui au président américain Franklin Delano Roosevelt.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui nous relate aujourd'hui la vie quotidienne des Roosevelt à la Maison Blanche.
Et Robert Sherwood, qui donc était en partie chargé des discours du président, raconte que, je le cite, « Roosevelt discutait d'abord avec Hopkins, Rosenman et moi. » Et il précisait les points sur lesquels il entendait mettre l'accent, quel genre de public il voulait d'abord atteindre et pendant combien de temps il souhaitait parler. Il nous dictait des pages et des pages sur son thème principal, tantôt l'attaquant de front très brutalement, tantôt s'en écartant tellement qu'il ne pouvait même plus s'y retrouver. Et alors il nous disait « Enfin bon, quelque chose dans ce goût-là, vous m'arrangez ça, vous autres ». Je pense qu'il se plaisait beaucoup, dit Sherman, à ces séances où il se sentait en pleine liberté et qu'il pouvait dire ce qui lui plaisait, abreuvant d'injures ses adversaires, certain qu'il était de n'en retrouver aucune trace dans la version finale. Quand il cessait de dicter, soit qu'il eut quelques rendez-vous ou qu'il fût l'heure d'aller se coucher, nous nous installions dans la salle du conseil pour relire tous les documents réunis. Alors, nous explique Sherwood, il y avait un dossier spécial qu'on appelait le dossier au discours, dans lequel on collectait tous les articles, les coupures de presse, mais aussi le courrier des personnalités officielles, mais aussi de totaux inconnus, qui avaient des suggestions à faire au président. Et on était chargé, le président avait lui-même souligné les passages qui lui paraissaient importants ou intéressants, et la rédaction du discours s'apparentait, nous dit Sherman, à la réalisation d'une sorte de puzzle. Dès que le président pouvait nous recevoir, nous lui soumettions notre première version, écrit-il. Il regardait immédiatement le numéro de la dernière page et invariablement déclarait qu'il allait falloir couper les 9/10 du texte. Et néanmoins, il nous dictait tellement d'évolutions sur ce texte qu'au contraire, nous ressortions avec une copie beaucoup plus longue, explique Sherman. Parfois survenait un événement important et à ce moment-là, il fallait travailler avec le président, quelle que fût l'heure. Roosevelt travaillait à ses discours la plupart du temps le soir, explique Sherman. Nous nous retrouvions un peu après 7 heures dans le cabinet ovale pour le rituel cocktail, mais il arrivait bien entendu qu'il faille travailler à d'autres moments, encore et encore, nuit et jour. 100 fois sur le métier, remettons notre ouvrage. Visiblement, le président Roosevelt n'était jamais satisfait de la version qu'on lui remettait puisqu'il réimprovisait lui-même au micro à partir du canevas fourni par ses conseillers.
Sur Europe 1 avec un nouvel extrait de son concerto pour piano.
Nicole Bacharan, on a l'impression que la méthode de travail mise au point par le président Roosevelt est celle qu'ont ensuite employée la plupart des présidents modernes des États-Unis.
Je vous écoutais, ça me faisait particulièrement penser à Bill Clinton. Mm-hmm. Ce côté foisonnant, ça surgit dans tous les sens. Effectivement, il se lâche, il n'est jamais content et finalement, il reprend la plume et il écrit lui-même à la dernière convention démocrate, donc où Bill Clinton a fait un discours qui honnêtement a vraiment relancé la campagne d'Obama. Il y avait avait une grande inquiétude dans la campagne d'Obama, parce qu'ils n'ont jamais vu le texte avant. Il l'a écrit lui-même, alors avec une équipe autour de lui, mais avec cette fameuse méthode que vous décriviez, reprenant toujours le canevas, et puis finalement à la tribune, ça a été naturellement beaucoup plus long que ce qu'il avait annoncé. Mais cette manière de tester des idées, de voir les réactions autour de lui, de les abandonner, puis de les reprendre, de les redémonter dans tous les sens, et finalement de les intégrer, c'est peut-être comme ça que l'on construit une politique, mais pas seulement une communication.
Alors je ne voudrais pas que nous donnions le sentiment de faire une hagiographie du président Roosevelt. On lui a reproché quand même de très graves choses.
Sur,
alors on ne va pas revenir là aujourd'hui sur Pearl Harbor, si vous voulez bien, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, je ne vais pas rouvrir ce dossier-là. On peut revenir en revanche d'un mot sur Yalta. Les Européens, les Français lui ont beaucoup reproché Yalta, bien entendu. Il semblerait qu'il ait beaucoup cédé à Staline à ce moment-là.
Il a peut-être été victime d'une attitude générale chez lui, c'est-à-dire qu'il n'aimait pas la confrontation. Au fond, à la Maison-Blanche, il était la seule et unique star. Hein, tout tournait autour de lui. Entre Churchill et Staline, c'est une autre paire de manches, si j'ose dire. Et on lui a reproché d'avoir été peut-être naïf vis-à-vis des ambitions de Staline, ou alors de ne pas avoir osé vraiment aller justement à la confrontation. Il a accepté le partage du monde, ce qui deviendra le rideau de fer.
Il faut dire qu'il était très malade à
oui,
ce moment-là.
Il était tout à fait
en fin de vie.
Voilà, tout à fait. Je suivais le même cours de pensée. On voit sur les photos un homme très, très affaibli à la fin de sa vie.
Alors, il était sans doute en plus bien disposé, enfin, il l'avait été envers Staline par un entourage qui était relativement soviétophile, tout est très relatif. On a reproché à sa propre épouse de l'avoir été, on va voir ce qu'il faut en penser. Vous venez de nous dire qu'il était la seule star de la Maison-Blanche. Il y avait quand même une demi-star à côté de lui, c'était son épouse qui a été l'une des Américaines les plus célèbres et les plus importantes du XXe siècle. Nous venons dans un instant à Eleanor Roosevelt, First Lady et rebelle, en compagnie de l'auteur de sa dernière biographie, Claude-Catherine Kiegemann.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et avec vos deux invités sur Europe 1, Nicole Bacharan, Claude-Catherine Kiegemann, nous également rejoint en studio, et de nombreuses réactions d'auditeurs sur Europe 1.fr.
Oui, alors j'en sélectionne quelques-unes. Nathalie me fait remarquer que j'ai commis une erreur à l'instant, c'est vrai. J'ai dit que Roosevelt avait déclaré la guerre au Japon. C'est un peu un raccourci, puisque, comme elle nous le fait très justement remarquer, Roosevelt fait un discours devant le Congrès pour demander au Congrès de déclarer la guerre au Japon, évidemment. Et puis, par ailleurs, c'est Patrick qui nous demande quelles ont été les relations entre Roosevelt et De Gaulle. Alors nous en parlions justement, c'est amusant, nous en parlions pendant la publicité là, et nous disions que, évidemment, le président Roosevelt, dans le pragmatisme qui était le sien, n'a pas eu pour la France libre une considération exagérée pour manier la litote. Alors, j'aimerais que nous parlions de sa femme et de l'influence d'Eleanor Roosevelt. Jamais avant elle, ni depuis, écrit Madame Kiegemann, l'épouse d'un président américain ne s'est montrée aussi active, n'a connu une telle popularité, exercé une telle influence aux États-Unis dans son rôle de First Lady qu'elle construisit à sa mesure, comme aux Nations Unies où elle présida à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Certains souhaitèrent même la voir accéder à la magistrature suprême et Hillary Clinton ne cessa de voir en elle un modèle. Mais elle fut aussi la bête noire des conservateurs, considérée comme un danger national pour sa défense de la communauté afro-américaine et pour ses liens dans les années 30 avec des communistes au sein de l'American Young Congress. Une personnalité donc d'emblée controversée sur un plan politique, Claude-Catherine Kiegemann.
Certainement, elle est controversée, mais enfin, elle est aussi, comme vous le disiez, extrêmement populaire. Et il faut remarquer qu'avant même que Roosevelt n'arrive à la Maison-Blanche, Eleanor est déjà une personnalité...
Elle est déjà célèbre.
Elle est déjà célèbre, est une personnalité politique importante dans le pays, parce qu'elle a tenu, si vous voulez, la place. Elle a été la doublure, en quelque sorte, de Franklin, pendant qu'il est malade et qu'il se soigne à Warm Springs en Géorgie. Et elle, poussée par un conseiller très proche de Franklin Roosevelt qui s'appelle Louis Howe, elle va se battre, défendre les idées de Franklin, mais en même temps les siennes propres, qui sont souvent, parfois, différentes, plus radicales ou plus progressistes.
Plus avancées, disons.
Plus avancées, alors même que, et c'est ça qui est intéressant, c'est que je crois que Franklin Roosevelt a moins de préjugés au départ que n'en a Eleanor, qui, pendant la guerre de 14, enfin je veux dire, quand elle se trouve à Washington et qu'il est secrétaire d'État à la Marine, ne fait aucun effort pour aider la femme du président Wilson, qui est favorable aux Noirs, et elle rejette les Noirs. Elle est plutôt antisémite à cette époque, et elle va, avec le temps, avec les épreuves, avec des rencontres de femmes qui sont déjà militantes et qui s'activent sur le plan social et politique, progresser et devenir, non pas une révolutionnaire, mais faire une révolution,
oui,
dans sa, et se transformer.
Pas une révolutionnaire, mais enfin tout de même, elle a, des, comme vous le dites, des positions politiques très progressistes. Est-ce qu'on peut même dire qu'elle a été pro-soviétique ?
Non, je pense pas du tout qu'elle était pro-soviétique. Elle a été intéressée par l'Union soviétique et ce qui pouvait se faire sur le plan social en Union soviétique. Mais pour elle, la liberté américaine et la démocratie américaine sont inégalables. Et donc, elle prend tout à fait et très rapidement ses distances avec ce que représente l'Union soviétique. Elle a par contre
elle
des sympathies,
oui,
pour des jeunes, pour des jeunes qui sont dans ce mouvement de Youth Congress et qui sont qui ont pu être communistes et qui sont communistes pendant les années 30.
Il ne faut pas oublier qu'elle est à la maison, enfin son mari est à la Maison Blanche pendant la guerre d'Espagne et qu'elle a des sympathies également pour les républicains espagnols.
Elle a des sympathies pour les républicains espagnols. Elle essaye même de faire entrer un certain nombre d'enfants espagnols aux États-Unis et elle se heurte comme elle se heurtera pour les jeunes juifs venus d'Allemagne, à l'opposition du département d'État, qui est très hostile justement à la venue aux États-Unis dans cette période difficile. De toute façon, ce sont des gens qui sont plutôt isolationnistes et qui ne sont pas très ouverts sur le monde. Et donc, notamment Cordell Hull, qui est le secrétaire d'État. Et donc, elle va s'opposer au département d'État et tenter, parce qu'elle tente, mais elle ne réussit pas toujours. Mais je crois que son grand combat aussi pendant les années 30 est ce qui est étonnant pour l'époque et pour une femme venue de son milieu, c'est le combat qu'elle va mener en faveur des Afro-Américains.
Oui, oui.
Qu'elle va commencer pendant les années 30 et qu'elle va poursuivre toute sa vie, même pendant les années de guerre où elle essaiera continuellement de faire que la situation...
Elle a les moyens de faire progresser certaines idées parce que notamment, elle donne des conférences de presse à la radio, elle se montre même plus tard à la télévision. Enfin, c'est tout à fait incroyable qu'une First Lady sorte à ce point de sa place ou de son rôle, si je puis dire.
Alors justement, c'est ce qui est très nouveau, c'est que quand elle arrive à la Maison Blanche, elle n'est pas tellement contente d'arriver à la Maison Blanche, Eleanor, parce qu'elle a peur de perdre sa liberté, cette liberté acquise pendant la maladie de Roosevelt, dont elle dit d'ailleurs toujours qu'elle veut aider, c'est une femme de devoir, donc Roosevelt a la primauté, mais quand même, elle veut défendre ses idées et elle va, quand elle arrive à la Maison Blanche, faire une conférence de presse hebdomadaire, faire des conférences dans tout le pays, et comme Franklin Roosevelt ne peut pas se déplacer, c'est elle qui se déplace à travers le pays.
Oui, la maladie du président, finalement, lui a donné peut-être une place plus importante.
Effectivement. Elle est ses yeux, ses oreilles et ses jambes. Elle se déplace partout et elle rend compte au président. Alors, l'influence qu'elle a sur lui, c'est une des questions qu'on peut se poser. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, je veux dire, Roosevelt est un homme qui décide seul. Il dit d'ailleurs lui-même que sa main droite ne sait pas ce que fait sa main gauche. Mais donc, Eleanor, peu importe, elle est là, derrière, elle écrit tous les jours des notes qu'elle met sur la table de nuit du président. Elle est constamment derrière. Et elle tente tout ce qu'elle peut, même quand elle ne parvient pas, elle reste. C'est une battante, c'est une combattante.
Il y a un aspect qui a évidemment beaucoup prêté à la critique, ce sont ses passions personnelles, les liaisons qu'on lui a prêtées avec des hommes plus jeunes qu'elle, mais aussi avec des femmes. Vous êtes assez réservée, prudente sur le sujet en ce qui
concerne.
Oui,
parce que je pense, si vous voulez, que d'abord c'est très difficile de savoir ce qui se passe entre les gens, que je crois que d'abord son amitié passionnelle pour une femme qui s'appelle Lorraine Aycock, qui est journaliste dans les années 30. D'abord, ça s'est su que très tard, parce qu'on a découvert des centaines, des milliers de lettres qu'elles se sont écrites, mais je ne suis pas sûre. Eleanor a dit un jour qu'elle avait abandonné presque le désir et que je crois que, si vous voulez, l'épreuve subie par la trahison de son mari a cassé quelque chose chez elle. Et son petit-fils, Curtis Roosevelt, avec qui j'ai parlé récemment, me disait ma grand-mère n'aimait pas toucher. Elle n'aimait pas le contact avec le corps, enfin. Donc, c'est très difficile de se prononcer. Alors, effectivement, elle a eu des passions pour des hommes plus jeunes, mais des hommes toujours beaucoup plus jeunes, très différents d'elle, qui étaient d'origine pauvre, souvent juive, etc., parfois de gauche, etc.
La politique se mêlait aux sentiments dans ces affaires.
Oui, la politique se mêlait aux sentiments, vous avez totalement raison. Mais en même temps, c'était une... Je pense que c'était par d'émotions très grandes. Cette femme était une victorienne puritaine, mais en même temps avec une empathie très grande.
Merci beaucoup, Claude-Catherine Kiegemann, Eleanor Roosevelt, First Lady et Rebelle. C'est édité chez Talendier. Merci beaucoup, Nicole Bacharan,
merci
et à
vous.
Très bientôt pour des nouvelles des États-Unis, évidemment.